conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Emmanuel Mercenier, directeur général de l'EPAMSA, bonjour.
Bonjour, ravi d'être présent.
Alors effectivement, cette interview, nous avons eu un peu de mal à la mettre en place parce que vous êtes sur un territoire qui pendant longtemps était très très loin, qui maintenant est très proche. Alors avant de parler de ce territoire, je veux bien évidemment parler de votre parcours. Parcours, on va dire, un peu classique comme pour un aménageur, non ?
Oui, exactement, vous l'avez dit. Hein. Donc voilà, je suis, pour faire vite, je suis donc ingénieur de formation, je suis ingénieur général des ponts, des eaux et forêts. Et puis donc j'ai un parcours assez diversifié puisque avec toujours comme fil conducteur quand même, l'aménagement avec aussi une partie infrastructure.
Oui, voilà, que ce soit des voies navigables.
Voilà, que ce soit des voies navigables, que ce soit des transports en commun, que ce soit des routes, voilà, et puis des aménagements lors de mon passage au département des Hauts-de-Seine, hein, où là j'ai quand même déployé beaucoup de les techniques, on va dire, d'aménageurs. Voilà, donc j'ai eu ce parcours assez diversifié, à chaque fois avec de l'encadrement de personnel, avec des jauges assez différentes, je dirais entre 10 personnes jusqu'à 1000 personnes.
Oui, c'est ça. Un écart assez important, puisque effectivement, selon les postes, vous avez dû encadrer différentes équipes.
Hein. Exactement, exactement. Donc tout ça donne pas mal d'intérêt. Et puis, ce que j'appellerais le management, à côté du management des équipes, le management des projets. Donc là, ça renvoie directement à la partie, on va dire, aménageur opérationnel.
À la gestion des élus, puisque le dialogue est nécessaire.
Exactement.
Et d'ailleurs, du coup, c'est ça aussi la stratégie, je suppose, de votre métier et de votre nouveau terrain d'aménagement.
Exactement. J'ai pu justement à travers mes postes précédents en collectivité, en particulier dans un grand département francilien, j'ai pu justement gagner en compétences justement sur cette relation avec les élus, et c'est fondamental dans le poste que j'occupe actuellement puisque, comme vous le savez, on est un établissement public d'aménagement, donc à la fois d'État, sous tutelle de l'État, mais également avec, bien entendu, dans notre conseil d'administration, une part importante d'élus locaux. Hein, donc c'est fondamental, je dirais que c'est même le point principal.
C'est le point principal, bien sûr.
À dialoguer avec les deux parties, exactement.
Alors, je disais tout à l'heure que, au cours de ces différentes interviews que j'ai fait récemment, j'ai effectivement interviewé plusieurs aménageurs, plusieurs directeurs généraux de différentes sociétés d'aménagement, mais jamais aussi loin, c'est-à-dire jamais sur une partie du territoire qui pendant longtemps a été considérée comme, on va dire, plus proche de la Normandie que de l'Île-de-France. J'exagère un peu, mais c'est juste pour expliquer un peu le grand écart avec la première couronne. Et puis, au regard du confinement, on regarde un certain nombre de positionnements, d'attentes des Franciliens, vous vous êtes retrouvés très proches.
Exactement. Alors, vous l'avez dit, c'est justement une de nos... Notre situation est assez stratégique, puisqu'en fait, on se situe, l'EPAMSA, le long de la Seine, hein, notre territoire qui est assez important, puisqu'il fait quand même 400 km². Donc, démarre, si je suis le cours de la Seine, hein, depuis quand même, en gros, la confluence avec l'Oise, hein, donc on n'est pas loin, voilà, on est sur Conflans-Sainte-Honorine, et on va en effet jusqu'à la frontière avec la Normandie. Et donc, quand vous dites qu'on est à mi-chemin entre l'Île-de-France et la Normandie, vous avez tout à fait raison, puisqu'en gros, on est à mi-chemin, par exemple, entre Rouen et Paris. Voilà, donc on est en Île-de-France, donc on a forcément, je dirais, le contexte francilien qui est présent, mais vous l'avez dit, on est aussi en zone grande couronne, dans un secteur qui n'a pas les mêmes exigences que le secteur de la petite couronne en termes d'attractivité.
Par contre, vous êtes quand même sur un territoire qui, pendant longtemps, du fait du fleuve, a été assez industrialisé, considéré comme étant un des berceaux extrêmement important de l'industrie, franciliennes. Et avec, bon, maintenant, une restructuration importante de l'industrie, des friches urbaines, une revitalisation du territoire nécessaire, du point de vue, en tout cas, économique. Comment faites-vous pour manier les deux, pour travailler à la fois sur ces grandes friches qui ont laissé un impact non négligeable sur l'environnement, et puis restructurer et remettre un peu du lien social, hein?
Alors, en effet, donc l'opération d'intérêt national, hein, qui est donc rattachée à chaque établissement public d'aménagement, a comme objectif principal de recréer de l'emploi. Vous l'avez dit, c'est un historiquement ce secteur de la Seine-Aval était très industriel, donc il y avait beaucoup d'emplois à la clé, et au fil du temps, ces emplois ont disparu. Donc aujourd'hui, vous avez raison, on a du coup hérité, si je puis dire, d'un certain nombre de friches industrielles. Dont l'ambition première est de les aménager de façon en effet durable. C'est à la fois un challenge très 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 compliqué, mais aussi passionnant. Et là, je renvoie tout de suite à l'actualité des derniers temps, puisque, comme vous le savez, on a des objectifs de justement travailler sur des friches industrielles. Et là, pour le coup,
Oui, puis il y a un fond. Là, pour le coup, il y a un peu d'argent.
Exactement, et donc on a pu en bénéficier déjà, et c'est très bien parce que ça nous permet justement d'accélérer via le plan de relance des opérations qui étaient plutôt lancées de façon à un rythme assez lent. Et donc grâce à ces fonds venant de l'État et également de la région, nous pouvons enclencher dès à présent certaines de nos opérations.
Alors justement, donnez-moi quelques exemples, parce qu'on est tous un petit peu friands effectivement des dernières nouvelles, puisque vous avez raison, vous aviez sur certains projets un temps, on va dire, infini, presque en année-lumière, puisqu'on sait aujourd'hui que l'aménagement, alors le temps se rétrécit, mais l'aménagement dure parfois 20 ans, ce qui est pas toujours, on va dire, non seulement supportable pour les populations, mais pour les élus et pour vous-même. Donc, d'un seul coup, ce fonds friche, beaucoup plus d'argent, une réelle prise en compte sur ces territoires de la nécessité d'aménager vite et durable. L'écart entre les deux, vite, durable, pollution, comment fait-on ?
Alors, en quelques minutes, c'est pas facile à expliquer, mais bon, déjà, en effet, ce que je vous disais, c'est que ça permet de, là où des opérations étaient un peu en attente, d'avoir justement les fonds nécessaires, les fonds financiers nécessaires, ça nous permet déjà d'avancer. Donc, je donne un exemple concret. Une de nos opérations phares, c'est la ZAC Mantes Université, qui est située sur le territoire du Mantois, et qui est également mixée avec la future arrivée du RER, Éole, Éole, hein, qui est le prolongement à horizon 2025. Donc ça, c'est très
attendu. Donc c'est demain, 2025.
C'est demain, et ça va en effet, là, on l'espère tous, renforcer encore l'attractivité de la Seine-Aval. Donc tout ça est assez lié. Donc c'est horizon 2025, et donc nous, ça nous permet là, donc 3 ans auparavant, de lancer ces travaux donc en lien avec cette gare d'échange multimodal au sein de notre ZAC, hein, et justement de, on a un site assez emblématique. Vous étiez venu.
Bah oui, formidable. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là,
voilà,
vraiment.
La Halle Sulzer, hein, qui était quand même un ouvrage assez emblématique.
Et donc, vous nous là, en parlerez parce que effectivement, c'est très important d'avoir le programme sur cette halle.
Exactement. Donc, typiquement, pour faire du concret, grâce au fonds friche, là, on a lancé nos premiers marchés de maîtrise d'œuvre et les travaux vont démarrer dans quelques semaines pour justement retravailler cette grande structure métallique pour y insérer en son sein une université, par exemple, un équipement culturel et un jardin paysager. Vous voyez, donc, on est vraiment sur du concret. Donc, on lance vraiment, je dirais, un aménagement qui va donner du sens.
Ça veut dire que les habitants vont pouvoir voir cet équipement ouvert dans quoi, 2 ans ?
Se transformer. Alors non, pas 2 ans, parce que vous imaginez que ces travaux-là sont longs. Très longs. Et puis, la restauration se fera en effet dans ce timing-là. En revanche, à l'intérieur, on va construire, mais sans pouvoir y revenir si vous le souhaitez, on va construire des bâtiments en matériaux biosourcés, par exemple l'université qui va arriver, l'équipement culturel aussi. Vous voyez, donc tout ça va se mettre en place progressivement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté de cette Halle Sulzer, toujours pour rester sur la ZAC Mantes Université, on va bien entendu, on l'a déjà fait, on est en train de lancer justement des consultations de promoteurs.
Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait récemment 200 et quelques logements.
Exactement, voilà, on a signé en fin d'année. Ouais, exactement, avec Marignan, pour ne pas les citer, 200, 230 logements, hein, dont 100 logements sociaux.
C'est vrai que c'est...
Donc, Voilà, donc là aussi, on participe donc à l'effort, je dirais, de logements sur le territoire, de logements sociaux également, hein, puisqu'il y a, un vrai besoin sur le territoire également. Et encore une fois, dans un souci, on ne fait pas du logement pour du logement. Et là, on revient à la relation avec les élus et les citoyens. On travaille beaucoup, justement, le côté esthétique, justement sur le rendu des façades. La crise sanitaire aussi nous a appris à réaliser des appartements, des aménagements, par exemple, traversants le plus possible pour qu'il y ait de la luminosité, des espaces extérieurs généreux. Voilà. Donc, on a pris, bien entendu, en compte, en tant qu'aménageur, tout ce qui remontait comme ça, des problèmes liés à la crise sanitaire, ceux qui ont vécu le confinement dans des petits appartements.
Alors, justement, par rapport à ce point d'importance, et peut-être qu'on aura l'occasion, on aura sûrement l'occasion lors d'une deuxième interview de parler aussi des autres actes. Sur ce point particulier du logement traversant, du logement de qualité, est-ce que ça veut dire que quelque part, quand on fait traversant, quand on fait un espace extérieur, le coût du bâti et donc le coût du prix de vente ou du locatif s'en trouve un petit peu augmenté, beaucoup
Alors, où est la marge? Alors justement, c'est tout le travail qu'on est en train de réaliser, puisque là encore, on n'a pas de retour complet, puisque là, on a lancé des consultations et on est en train justement de faire sortir les projets. Mais c'est très intéressant cette question, parce qu'en effet, y compris, je vous l'ai dit, avec l'emploi de matériaux biosourcés ou matériaux bois, il y aura forcément des répercussions sur les coûts. Mais je pense que là, il faut qu'on la joue vraiment collective, c'est-à-dire que le monde de l'immobilier, que ce soit nous aménageurs, que ce soit le promoteur, que ce soit le constructeur, il faut que chacun justement apporte...
Mais est-ce que les filières bois suivent aujourd'hui? C'est pas sûr, hein?
Alors, on est en train, justement, ben là, on est en train de lancer une consultation. C'est de l'actualité, on terminera peut-être là-dessus, sur Carrière Centralité, qui est une autre de nos actes située sur la boucle de Chanteloup. Et on lance, justement, sur un lot de consultations, un démonstrateur pour utiliser du bois qui vient de Normandie, du hêtre normand, transporté par le fleuve. Donc là, on est sur un démonstrateur et je vous invite, on aura peut-être l'occasion,
avec grand plaisir.
On est en plein retour des consultations, donc je peux rien vous dire, mais en tout cas là, justement, on lance ce démonstrateur pour une soixantaine de logements pour voir justement, y compris au niveau des coûts, ce que ça va donner.
Écoutez, je vous remercie en tout cas de cette première interview. Je vous donne rendez-vous à la deuxième, n'est-ce pas? Puisque seulement ébauché le sujet.
Exactement, et nous serons donc bien sûr les PAMSA comme un certain nombre d'aménageurs présents au MIPIM à Cannes.
Aussi sur Radio Immo. Merci, voilà. Chers auditeurs, et merci Monsieur Mercenier, merci à vous.
Merci à vous, bonne journée.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.